Je pense que je vais oublier de lui parler de son âge, parce que c'est souvent le sujet, alors que son livre mérite qu'on prenne tout le temps. Jeannette Bertrand est avec nous pour nous parler de ce nouveau livre, Un viol ordinaire. Madame Bertrand, bonjour.
Bonjour, Paul. Il y a longtemps qu'on s'est vu.
Ben oui, ça fait un petit bout de temps et j'ai lu votre livre en fin de semaine.
Ouais.
Puis au début, quand j'ai vu le titre, j'ai dit un viol ordinaire. Un viol, c'est
quoi,
pas ordinaire par en soi, mais ce que vous voulez démontrer, c'est qu'on n'a pas affaire à un prédateur qui sort de l'ombre dans un parc ou dans une ruelle, mais que ces agressions, que ces viols, la plupart du temps, ça se passe dans l'intimité, dans la proximité.
Voilà, c'est exactement ça. Et on n'en parle jamais parce que c'est, ça se passe, comme dirait mon père, en dessous de la couverte.
Mais avec votre expérience de vie, et moi j'ai vu ça, puis je veux vous entendre là-dessus, l'espèce de silence qui, j'espère, existe de moins en moins, mais qui a existé, puis combien de femmes qui ont été victimes d'abus au sein de familles disent « je peux pas parler, ma mère me croira pas, je vais briser la famille, espèce de je vais attendre que mes parents meurent pour en parler
».
Ça a été le lot de beaucoup de familles au Québec.
Oui, et dans les biographies, là, tu sais, que j'ai eues, je me souviens pas si on se tutoyait.
Oui, OK.
Alors, j'ai reçu des récits encore d'inceste qui ont détruit des familles. Et ça a existé, ça existe beaucoup moins. Mais c'est le silence, faut pas parler de ça. C'est trop intime, on ne parle pas de ça. Et on ne parle surtout pas des viols conjugaux, parce que toujours dans l'Église, nous avait dit « Les femmes, vous êtes soumises au mari, même dans le lit. » C'était la soumission totale. Alors, la religion nous a marqué beaucoup plus qu'on pense. Hein, parce que c'est pendant des siècles, on nous a dit ça. Que la femme appartenait au mari. On n'était qu'un morceau d'Adam et Ève. C'est ce qu'on nous enseignait. Alors, on est habitué à être soumise et puis tout à coup, on ne veut plus. Les femmes ne veulent plus de ça.
Mais il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup frappé. Évidemment, le rapport dans le jeune couple, là, mais aussi la réaction de la mère, la réaction du père. Là. Quand ton fils... C'est, au début, tu sens le sentiment de culpabilité de la mère.
Oui, parce que la mère avec son fils, c'est un rapport très spécial. Comme d'ailleurs les filles avec leur père. Mais le rapport, il est pas amoureux, mais
non.
C'est très près. Et la mère se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Les mères, on se demande toujours. On est toujours coupable. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il fasse ça? Mais j'ai dû faire quelque chose. Et oui, on fait quelque chose sans le savoir. Quand tu dis à ton petit gars, t'es mon homme, t'es mon petit homme, quand ton père part, c'est toi qui es le chef de la famille, t'es fort, tu sais, on va applaudir un petit gars qui court vite. Et puis, la petite fille, elle, il faut qu'elle soit gentille pour qu'on lui dise « Oh, elle est tellement gentille! » Alors, il y a deux poids, deux mesures qui se continuent tout le temps.
J'allais dire, parce qu'on sent là, que c'est évidemment douloureux, c'est douloureux pour les deux parents, là. Mais de façon différente. Ça les confronte aussi sur leur vie de couple.
Mais c'est sûr que ça, oui, c'est sûr que la domination des hommes qui est là depuis toujours, qui a l'air de partir, mais qui ne part pas. L'homme est encore convaincu, quand je dis l'homme, je ne dis pas tous les hommes, je dis certains hommes encore, sont convaincus qu'ils ont droit de faire à leur femme, à leur amante, à leur blonde, tout ce qu'ils veulent. Ça nous a été enseigné. Alors, c'est difficile de se débarrasser de ça. Et les femmes ne parlent pas de peur de passer pour ci, de passer pour ça. Alors maintenant, depuis MeToo, on dénonce. Et c'est cette dénonciation qui va changer l'attitude des hommes, j'espère.
Mais là, j'entends des hommes dire, parce que la discussion qu'on a, c'est sur la notion de consentement. Est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle refuse? Est-ce qu'elle...
Oui.
Il y a des gars, là, puis avec plein de bonnes intentions, comme probablement ton personnage.
C'est un bon gars,
Qui dit, comment je fais pour savoir puis comprendre, là, est-ce que c'est correct, pas correct?
On se parle. On se parle. Tout simplement, on se parle. Ça se peut se dire dans l'oreille, ça se peut se dire très fort, ça se veut dire ça, moi je t'aime, mais ça, je suis pas capable. Ça, je ne peux pas. Ça, j'aime pas ça. Alors, c'est qu'on a, les hommes habituellement en tiennent compte, et puis tout à coup, le désir prend le dessus. Et Dieu sait si on a, si on dit toujours, mes fils ont les hormones dans le tapis, mais tu sais, on prend pour acquis que les hommes ont un pénis qui ne peut pas arrêter de bander. C'est ça. Je m'excuse des mots, là.
Non.
Mais faut le dire.
Oui.
Faut le dire. Et quand ils bandent, ils se disent, ben, c'est ça, là, que je veux. C'est ça que je veux. Et la responsabilité de la porno là-dedans. Écoute, il est prouvé que les garçons commencent à 11 ans à regarder de la porno, où les filles aiment tout ce que les gars proposent, où les filles veulent toujours tout. Alors le gars, c'est sa seule éducation sexuelle jusqu'à aujourd'hui. Alors il va demander. Et je le blâme pas. On les femmes et les hommes, nous sommes conditionnés à certaines choses, par la religion, par la littérature, partout. Alors il faut défaire ça, le patriarcat.
Je vais partager avec toi un résultat de sondage, une enquête. Là, ça vient tout juste de sortir. Ça a été mené par l'Union des écrivaines et des écrivains québécois.
Oui.
Et ce que ça dit, c'est que le harcèlement touche une écrivaine sur trois.
Oui.
OK, mais ben, attends un peu, là. On ajoute également que, en fait, là, 32,8% des femmes écrivaines qui ont témoigné disent avoir vécu au moins une fois un comportement inadéquat, répétitif ou encore un cas de conduite grave.
Oui.
Tu es une écrivaine.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe dans ce milieu-là? C'est comme les autres, ces petits...
Ben, c'est comme les autres. Où il y a des hommes, il y a de l'hommerie. Où il y a des hommes, il y a la séduction, ce qu'on appelle en France la séduction avec un grand S. Ben, ici, la séduction, elle est peut-être un peu plus russe, là. Il faut que le gars tente sa chance. Il tente sa chance tout le temps. Alors, ça m'est arrivé très jeune. J'étais à la radio, et à CKC, et puis il y a un monsieur, pas de CKC, un monsieur qui m'a offert un radioroman. Un radioroman, on était pauvres comme job, mon mari était encore aux études. Et alors, je le voulais. Alors, j'envoie tous les plans, tout ça. Un jour, ce monsieur-là vient me voir. Et il fallait que je couche avec lui pour avoir le radioroman. Je ne l'ai pas eu, parce que je l'ai mis dehors. Je ne l'ai pas eu, et c'est un autre qui l'a eu. Alors, tu sais, tu te dis, mais je suis quoi, moi? Je suis des fesses et des seins. C'est tout ce que je suis.
Parle-moi des biographies que tu as reçues depuis le début de cette pandémie. C'est quoi, autour de 500, quelque chose
500,
comme...
oui, et bonne. Et bonne. Écoute, c'est tellement bon que je les ai lus. J'avais fini mon livre en juin. J'ai lu 500 parce que, avec plaisir, j'en finissais une, il fallait que je lise l'autre. C'était autour de 50, 75 pages. Or, c'est notre histoire, Paul. C'est l'histoire du Québec. Parce que je leur ai demandé d'écrire sur leurs parents. Alors, quand tu as 65 ans, 70 ans, et que tu écris sur ses parents, tu fais les 100 ans. Alors, c'est 100 ans d'histoire du Québec. On vient de loin, c'est tout ce que je peux te dire. On vient de loin.
Qu'est-ce qui te frappe le plus?
Le rôle de la religion. J'ai eu beaucoup, beaucoup de biographies des régions. Et 12, 15, 16, 17, jusqu'à 21 enfants avec la même femme. Des fois, ils ont eu 25, mais avec deux femmes, mais 21 enfants. Et c'était chaque année à la visite du prêtre. Le prêtre qui disait, « Madame, vous ne faites pas votre devoir. Ça fait un an et demi qu'il n'y a pas de petits. » Et même qu'il y a des régions où elles ont été excommuniées.
Ce
n'est pas des farces, là. Quand on parle de l'islamisme, là, nous autres, on n'était pas loin de ça. Il n'y a pas si longtemps, c'est pas le Moyen-Âge.
Non, c'est sûr.
Il y a 100 ans.
En terminant, j'ai dit que je ne parlerai pas de ton âge, mais il faut que j'en parle quand même. Il y a une auditrice qui m'écrit, « Demandez à Mme Bertrand, c'est quoi sa recette? À quelle heure elle se lève? À quelle heure est-ce qu'elle prend un verre de vin une fois de temps en temps? »
Ben oui. Bon, ma recette, c'est garder ma tête occupée. moi, je crois beaucoup à ça, que plus ta tête, plus tu te forces pour apprendre des affaires, plus là, je commence un autre livre. Tu sais, c'est dur, c'est compliqué, puis il faut que je me rappelle de tout ça. Puis, bon, mais faire travailler sa tête, c'est pour ça que j'ai offert, moi, de faire des biographies. Parce que c'est pas à jouer aux poches que les vieux veulent. C'est avoir quelque chose qui les occupe intellectuellement. C'est un projet. Moi, je vis de projet en projet.
C'est drôle, Yvon Deschamps m'a dit la même chose la semaine dernière en disant que ce qui est important pour lui, c'est d'occuper l'esprit puis de toujours avoir quelque chose en tête.
L'esprit. Or, on va beaucoup dans le corps, là. C'est sûr qu'il faut être en forme physiquement, mais s'occuper l'esprit. Est-ce que j'ai le temps raconter une chose? Le Time Magazine, il y avait un grand Time Magazine autrefois où la chose de la santé, le ministère de la Santé, cherchait, alors que l'Alzheimer vraiment prenait de la place, des personnes qui n'avaient jamais eu, des groupes qui n'avaient jamais eu l'Alzheimer. Ils sont tombés sur un groupe de femmes qui avaient toutes 95 et pas une avait eu l'Alzheimer. Sais-tu qu'est-ce qu'elles faisaient? C'était des religieuses qui enseignaient encore. Moi, j'ai enseigné jusqu'à 90 ans.
Jeannette, j'allais dire à très bientôt.
Ben oui, Paul, dis-moi pas là.
Non, tu peux être sûr. Merci beaucoup, au revoir. Jeannette Bertrand, le titre du livre, Un viol ordinaire, c'est publié chez Libre Expression.